Résonance, le lundi à 20h sur Radio G, présenté par Marina Dou.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un moment rien que pour vous et avec nous. C'est Résonance, l'élégance musicale, l'art du métissage. Des vibrations qui nous touchent, traversent notre chair, notre être au-delà de nos différences. Alors soyez prêts pour ce voyage, car c'est avec Lodjo que nous partons ce soir. Un groupe atypique, un univers singulier, c'est le groupe Lodjo. Un monde cosmopolite inscrit sur la scène internationale depuis plus de 40 ans. Des collaborations exceptionnelles, une alchimie singulière et touchante, des sons et des mots pour des voyages hors du temps. Une richesse musicale envoûtante, une aventure humaine qui nous emporte avec douceur et grâce dans des découvertes sauvages pleines de finesse.
Viens pour des salutations, des tourbillons d'atomes.
Denis Payan, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans Résonance.
C'est gentil.
Merci d'être avec nous ce soir. Cofondateur du groupe Lodjo avec Richard Bourreau, accompagné des voix de Yamina et Nadia Nid El Mourid et du bassiste Alex Kochenek, vous embrassez avec passion l'universalisme de la musique. Depuis plus de 40 ans, vous sillonnez le monde en musique pour raviver les cœurs. Plus de 16 albums enregistrés, des collaborations à n'en plus finir avec Robert White, Tony Allen, Robert Plant, Tina Riwen, Eric Truffaz ou encore Archie Sheep. Une musique de l'âme, d'ici et d'ailleurs, dépassant les frontières pour nous ramener à l'essentiel, l'essence de l'instant. Poète d'antan, qu'est-ce que représente pour vous la musique ?
La musique, je suis tellement impliqué que je ne peux pas vous répondre en fait. C'est ma vie. C'est ma vie de tous les jours. C'est ma façon de me réaliser personnellement. C'est une chose d'être avec les membres de mon groupe dans une relation affectueuse, affective, d'être en relation et donner un message à des gens que je ne connais pas la plupart du temps. C'est révéler la vie. C'est ce que j'ai trouvé comme média le plus sensible qui résonne pour moi avec le cosmos.
Le cosmos, c'est-à-dire l'univers,
L'univers, avec les forces vibratoires de l'univers, les forces vibratoires qui sont dans le cœur même des humains.
Donc pour vous, la musique est en résonance avec les vibrations de chacun. Alors en 1982, Lodjo voit le jour. Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure à la fois musicale et humaine ?
Qu'est-ce qui nous a lancé là ? Un désir, une espèce de feu intérieur, des fantasmes de réalisation d'un monde collectif, un désir brûlant d'exprimer, de créer, de se lancer dans la vie.
Et Lodjo, ce nom-là, il vient d'où ?
Je l'ai inventé. J'ai brassé les syllabes dans ma tête et je l'ai ajusté à ce qui me semble être, d'une part, le côté l'eau et le côté Joe.
Joe, d'un nom, c'est ça, d'un prénom ?
Non, pas nécessairement. C'était peut-être, si on peut résumer, par le yin et le yang, ou par une force et une force, ce contraire. Un féminin, un masculin, un côté secret, un côté délivré, vu.
Alors une musique qui est assez profonde, qui fait référence voilà, à la spiritualité, à des concepts un peu métaphysiques.
Profonde, toutes les musiques le sont. Le son parle et le son n'a pas de mots, mais c'est pour ça qu'il est sujet à se mettre partout, aller partout. Il se glisse dans tous les interstices, le son. Le son, il nous touche de par tous les bouts, quoi. Il nous touche par le cœur, il nous touche par le ventre, il nous touche par l'esprit.
Alors vous osez des mélanges de styles, vous ne vous refusez rien. D'où vient cette ouverture, cet élan intarissable ?
Je ne peux pas le dire d'où il vient. Personnellement, j'aime des musiques qui sont tout à fait différentes. J'ai d'abord écouté ce qui était le plus proche de moi, la variété française, on va dire, qui sortait de la radio. Mes parents n'avaient pas de culture musicale particulière. J'ai aimé, adolescent, la musique qui venait d'outre-Atlantique, la musique pop et psychédélique. Très vite, je me suis intéressé au jazz. Très vite, j'ai commencé à pratiquer la musique classique. Je suis allé avec mon premier voyage avec l'Ojo dans les pays d'Europe centrale. J'ai aimé la musique d'Europe centrale. J'ai aimé la musique de Zigane. J'ai aimé l'humeur slave des chants chorales. Nous sommes allés en Afrique. J'ai eu beaucoup d'attention pour la musique africaine, la richesse de la musique africaine. J'écoute de la musique africaine de tous les pays d'Afrique, que ce soit du Burundi, du Kenya, de l'Algérie ou du Mali, etc., etc. Chaque génération amène des sons. J'aime beaucoup la musique électronique. Je sais pas, c'est mon goût qui parle. J'ai pas vu qu'il y avait de limite dans la musique. Et écouter de la musique de chansons françaises, ça m'intéressait parce que j'aime la langue et d'un certain côté, je suis auteur. Voilà, mais je ne suis pas patriote, par contre, en aucun lieu.
Alors, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a touché, qui vous a marqué au travers de vos voyages ?
Il y en a énormément. Chaque voyage m'a marqué. Dès que j'ai trouvé quelqu'un qui était différent de moi, que j'ai trouvé un étranger, ma curiosité a été éveillée, mon savoir a été agrandi.
La rencontre, pour vous, c'est une fusion ?
C'est la leçon de la vie qui s'offre à travers l'échange avec un autre. Et celui qui ne refuse de parler avec l'autre, il n'a pas beaucoup de chance de trouver une évolution.
Donc une ouverture, en tout cas, une ouverture du cœur, de l'âme.
La communication avec qui que ce soit. Et le voyage, je ne suis pas obsédé par le voyage, parce que si je reste auprès de chez moi, je trouve aussi de quoi vivre, hein. Mais l'ailleurs quand même est propice à se remettre en question, à se faire un propre miroir. Et il y a autant de pays qu'il y a de musique, il y a autant de régions, il y a autant d'époques qu'il y a de façon d'aborder la musique.
Alors vous parliez tout à l'heure d'un parcours classique. Comment vous avez appris la musique ?
En fait, j'ai commencé à apprendre seul. J'ai acheté un petit orgue à un forain, un petit orgue Farfisa. J'ai commencé à apprendre seul, j'ai joué avec des copains de lycée, je crois. Et puis un jour, j'étais au lycée, une fille qui était dans ma classe, qui s'appelait Cécile, qui faisait du cor d'harmonie. Elle m'a incité à venir au conservatoire, et au conservatoire, j'ai découvert le basson baroque. Et j'étais fasciné par cet instrument, et je me suis mis à en jouer. J'ai joué Haydn, j'ai joué Bach, j'ai joué Messiaen, j'ai joué Bartok, j'ai joué Vivaldi, les concertos de Vivaldi, 44 concertos pour basson, qui sont sublimes. Et j'ai commencé à apprendre donc un peu comme ça, le solfège, harmonie. Puis surtout ce qui m'a fasciné, jouer au milieu d'un orchestre et d'être quelqu'un, une toute petite parcelle d'un ensemble, et d'entendre tous les pupitres autour de moi, les cuivres, les vents, les cordes, les percussions, et d'entendre ce tourbillon d'atomes qui est un orchestre. Ça m'a fasciné, ça m'a beaucoup appris sur les timbres, sur la puissance émotionnelle des différentes des pupitres, on appelle, c'est-à-dire ensemble d'instruments.
La musique classique vous a donné des bases pour après composer, pour vous ouvrir à d'autres musiques au final.
Une base, et j'ai appris par moi-même une autre façon plus personnelle d'aborder la musique. Et puis par simplement mon oreille qui m'a enseigné, puis d'autres gens qui m'ont parlé, d'autres musiciens que j'ai regardés, que j'ai écoutés.
Alors vous êtes aussi auteur, vous composez, vous écrivez vos propres textes. Quel a été l'élan vers l'écriture en fait ? Comment ça s'est passé, l'envie d'écrire ?
D'abord j'ai eu un milieu où on ne parle pas beaucoup. C'est un milieu rural où la parole était un petit peu limitée par pudeur, par peur, peut-être. Beaucoup de raisons. Et comme j'étais un peu rebelle, même peut-être très rebelle, j'ai pris un pli différent. Je suis devenu un tribun, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui aime manier les mots, quelqu'un qui aime tous les modes de transformation de la langue pour exprimer quelque chose. La parabole, la métaphore, la déstructuration du langage, différentes langues. Je pense à un contre-pied culturel, une revanche sociale aussi, de parler, de maîtriser la langue. J'ai eu des professeurs au lycée qui m'ont beaucoup éveillé à la poésie. Et j'ai été fasciné que des gens s'expriment par les mots. Et même si je ne comprenais pas, j'aimais ce que je ne comprenais pas, en fait. J'ai toujours aimé ce que je ne comprends pas.
Des poètes qui vous ont marqué ?
Ils m'ont marqué tous ceux que j'ai rencontrés. Hier, j'ai ouvert un livre de poésie arabe ancienne. J'étais fasciné par la plume des gens qui écrivaient dans une autre langue il y a plusieurs siècles, au XIIe siècle. Poésie sublime. J'ai aimé certains de mes compatriotes, Henri Michaud, Prévert, Apollinaire. Aimé ou j'ai eu de l'attention pour eux, ou ils m'ont éclairé. François Villon, quand j'avais 18 ans, je passe séchais. François Villon, j'étais un peu interloqué par le vieux français. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que je suis en train de parler à un autre vieux français, que le langage de ceux qui succéderont sera très différent du mien, déjà. Langage inclusif, qu'on appelle désormais, qui va transformer la langue.
Effectivement, oui.
Et donc, dans 20 ans, on trouvera que moi, je parlais un vieux français.
Et est-ce qu'il y a des mots que vous interdisez ou pas de dire, d'écrire pour ne pas forcément peut-être, je dirais, blesser ?
C'est intéressant, votre question, on ne me l'a jamais posée. Je dois m'interdire des choses, sûrement. Parce que celui qui aura gagné toute sa liberté, qui aura l'occasion de l'exprimer, peut-être qu'il n'est pas né, ou alors il est fou. Je dois m'interdire des choses, oui.
Et est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent plus à cœur que d'autres, ou vous laissez emporter par l'inspiration ?
Je crois que j'ai un seul sujet, c'est la vie, c'est la relation au monde, c'est l'invisible. J'aime parler des choses souterraines. Je fais un portrait concret des choses abstraites. Je dessine l'invisible.
L'invisible, c'est-à-dire
entre nous deux, là, il y a une force, il y a une relation, il y a quelque chose, il y a un trait, on ne le voit pas.
De l'énergie.
L'énergie.
L'homme est bien peu de choses, mon ami. Il triche et se méprend, se brûle et se repent. L'homme est peu de choses. Si le soir il est hasard, le matin il est destin. L'homme est bien peu de choses, mon ami.
Toujours avec nous et pour vous dans Résonance avec Lojo. Alors on va parler de votre nouvel album Feuille Fauve. C'est un voyage lumineux, émouvant. On passe par tous les pays, de la Jamaïque, en Afrique, en Argentine. Dans quel état d'esprit il a été réalisé ?
Alors... C'est toute une histoire pour un groupe, surtout qui est ancien comme le nôtre, de chaque fois de recommencer un disque, pour ne pas exactement se répéter, pour ne pas non plus se trahir. L'état d'esprit, il y a une forme d'inquiétude, parce que c'est un enjeu pour nous très important, c'est la survie d'une dizaine de personnes, hein, qui vont partir en voyage, partir en tournée avec un album qui va être aimé, ou pas, ou qui va être crédité par la presse, ou moins. Voilà. Donc, il y a une fébrilité, il y a une inquiétude, il y a des questionnements fondamentaux. Quelle couleur il va avoir? Alors, on devise. C'est l'habitude du groupe d'échanger autour de la couleur qu'on voudrait lui trouver. D'aucuns voudraient qu'il soit plus moderne que le précédent, d'autres voudraient qu'il soit plus épuré, d'autres qu'il y ait plus d'invités. Voilà. C'est un échange, parce que le groupe, c'est contradictoire. C'est sans arrêt de la contradiction.
Donc vous jonglez avec cette contradiction en permanence, au final.
Oui, mais dans une certaine anarchie qui nous est propre, peut-être qu'on maîtrise, pour arriver à un résultat.
Et vous le vivez comment ? Sereinement, peut-être ?
Sereinement ou non, c'est la vie collective, quelquefois elle n'est pas sereine. Mais l'important, c'est qu'on arrive à une création qui soit vibrante et que quelqu'un la reçoive. Le chemin, aucun chemin créatif n'est pratique, n'est facile et n'est lisse. Aucune vie d'artiste n'est lisse non plus. Peut-être celui qui est fade a une vie lisse. Mais celui qui est produit quelque chose avec des aspérités, avec des capacités de forcer le sentiment, de toucher, il est passé par l'épreuve de l'expérience.
Donc exposer sa vulnérabilité, c'est une façon aussi de toucher les autres.
Oui, parce qu'il y a quelque chose de dans le texte, par exemple, je trouve que il y a de la pudeur, parce qu'on parle de soi immanquablement. On se livre, oui, on se livre. Et c'est quand on s'est livré honnêtement, avec intégrité, qu'on est susceptible de toucher quelqu'un, beaucoup. Un cœur qui va comprendre, qui va peut-être nous comprendre, un cœur ami, une âme sœur.
Et vous souhaitez transmettre quoi avec cette musique, ce nouvel album ?
Ce n'est pas un souhait, c'est de rentrer en connexion avec des gens, avec un monde qui soit peut-être une famille, un cercle, une communauté d'esprit. C'est rassurant. La musique, elle nous rassure. Moi, j'ai des compagnons de musique, des gens que je n'ai pas connus, qui sont d'une autre époque, que je considère comme des compagnons, des gens qui ont formé ma confiance en moi, qui ont formé un petit tissu, un cocon, qui m'est confortable, qui m'est agréable pour survivre. Et qui est une musique est pleine d'idées, elle est pleine d'histoires. Il n'y a aucune musique qui est indifférente à son époque, qui est indifférente à son lieu. On ne fait pas la même musique en Jamaïque en 1965 qu'à New York en 2024.
Alors, Feuille Fauve, on entend un peu deux contradictions dans ce titre.
C'était très simple, j'étais dans ma fenêtre, c'était dans le temps du Covidage, et c'était l'automne. Bon. Et après, je sais que ça évoque beaucoup de choses, parce que les mots ont des acceptions différentes. C'est-à-dire que feuille, ça veut dire beaucoup de choses. C'est la feuille de l'arbre, c'est la feuille pour écrire, et même, on dit la feuille pour l'oreille, avoir de la feuille. Fauve, il évoque tout de suite quelque chose de sauvage, d'animal. Donc on a le minéral, on a le végétal, et on a l'animal. On peut aller loin comme ça, extrapoler sur les mots. Les mots ont des racines dans d'autres langues, dans d'autres parlées. L'oralité nous a précédés. L'oralité était un champ de immense de découverte, d'appréciation de la vie. On a perdu quelque chose avec l'écriture. On a gagné autre chose avec l'écriture. On vit là-dedans. C'est le mouvement de la vie.
Et qu'est-ce qu'on a perdu avec l'écriture ?
Justement, je ne sais pas, j'y réfléchis, c'est une femme, une vieille femme allemande universitaire qui m'a éveillé à ça il n'y a pas très longtemps, qui m'a pointé cette chose-là qu'avec l'écriture, moi je me trouvais très savant à savoir écrire, je crois que on était très évolué à savoir écrire, elle m'a pointé un petit peu le contraire, elle a dit qu'on avait perdu quelque chose, j'y réfléchis, et que la pensée est devenue plus monocorde avec l'écriture, elle était plus ouverte, plus polymorphe dans l'oralité. Ça m'a vraiment très très intéressé. Mais j'ai pas compris encore. Je sais qu'il y a quelque chose là-dedans.
Alors, cet album, il s'ouvre avec un premier titre qui s'appelle Mandiego. Une mélodie poignante, teintée de nostalgie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous évoque, cette chanson, déjà par ce titre et ensuite par son sens ?
Moi, j'aime bien les mots qui ne viennent de nulle part. J'ai inventé ce mot, pas ces signes-là, parce que... une ville qui s'appelle San Diego, il y a une ville qui s'appelle Diego des... Je le dis dans une chanson, d'abord. Je ne m'en rappelle plus, dans l'océan Indien. C'est un prénom. Man, ça veut dire homme, en anglais, bon, peu importe. Bon, j'ai forgé un mot avec deux syllabes. Le thème de cette chanson, je ne sais pas s'il y en a, parce que la vie est complexe, tout se mélange quelquefois, l'espace-temps. J'étais chez moi, puis je me suis demandé ce que ça me ferait, moi, comme auteur, écrivain, si j'avais plus rien à dire. Et c'est là-dessus que j'écris. S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce verre jamais bu. Par ce verre jamais bu, je voulais dire que la vie va encore nous offrir des occasions de vivre, et donc de parler, et donc de poétiser. Il y a ce verre qu'on n'a jamais bu, cette personne avec laquelle on n'a jamais été trinqué à l'amitié ou à l'amour. Puis plus tard, je dis ce mot jamais dit. Il y a des mots qu'on a encore jamais dit, il y a des ressources encore en nous, immenses. C'est ça que j'ai voulu dire.
Eh bien, on va écouter un extrait de Mondiego.
S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce verre jamais bu. S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce mot jamais dit. Demain sera l'immense par des grâces, des uppercuts.
Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
J'ai cru rater, mais cette mauvaise pierre fut un beau silex, un joyau sirim, sirim.
Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
Poussière du Sahel que viennent jeter des œufs sur l'Europe, les frontières se déchiquettent, des messages arrivent télépathes.
Agedalu, Amandie, Amanjo, Afandiele. Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin du délice, ce verre jamais bu, le ciel se couvre d'îles.
Agedalu amandie, amanjo afandiere. Amasanjo, amanjo, mandiego. Amasanjo, amanjo, mandiego. Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
Alors vous dites, j'ai cru rater, mais cette mauvaise pierre fut un beau silex. Vous voyez toujours le beau côté des choses?
Pas toujours, non, mais là, oui. L'appréciation immédiate des événements, des fois, est trompeuse. Et en fait, un événement qui nous paraît négatif, en fait, on n'a pas su le détecter à quel point il était un bon guide. Donc, il me semble que cette phrase, c'est peut-être la plus importante de cette chanson, en fait. C'est bien que vous la signaliez. J'ai cru rater. On croit souvent rater, parce qu'on est des êtres un peu, en général, ceux que je connais, moi-même, fragiles. Et le doute était propre à notre civilisation ou époque, je ne sais pas, quelque chose qui est inconfortable dans la réalité qui fait qu'on croit rater. Mais il est possible que ce qui nous a semblé être une mauvaise pierre, eh ben, s'avère être un déclencheur, c'est-à-dire un silex qui est capable de faire une étincelle.
Une sensibilité, une profondeur qui nous touche, des textes qui éveillent, réveillent. Dans une autre chanson, vous écrivez « Ici, nous sommes peu de choses ». Alors que sommes-nous ?
Je suis un observateur et j'ai observé que l'homme est plus de choses. Je dis mon ami, parce que je m'adresse à quelqu'un. Il triche et se méprend. Oui, l'homme triche, se méprend, ment. Il y a une autre chanson qui s'appelle La colère. La colère, la conséquence aussi peut-être d'un monde, je pense au monde politique qui est tellement mensonger qu'il est accablant. Son mensonge est tellement grand. sa turpitude est tellement grande que on y voit l'homme se désintégrer, l'humanité se dévoyer absolument. L'homme est peu de chose.
Est-ce que vous pensez que la musique peut révéler cette lumière de l'humanité ?
Oui, elle peut être aussi un voile de la méfiance avec le divertissement, en fait. Elle peut être une consommation banale, ça peut être de la même type d'addiction que celle par rapport avec le sucre ou avec n'importe quelle addiction qui peut être absolument, si on peut nous voler l'arrêter, le déjouer, j'ai un petit peu quelquefois des résistances avec ce qu'on appelle le divertissement.
Et est-ce que la musique peut changer le monde, d'après vous ?
Elle l'a déjà changé. Elle l'a beaucoup changé. La musique a été en réaction avec les événements politiques, sociaux, le jazz énormément, le rock, toutes les musiques des indépendances africaines, qui ont été marquantes, qui ont transporté les idéaux des hommes, toutes les musiques politiques d'Amérique latine, les musiques révolutionnaires d'Amérique latine, les paroles des révoltés, des poètes révoltés. Donc elle a aidé les gens, elle a porté la parole des hommes, oui, souvent.
Et aujourd'hui, vous, quelle est votre place en tant qu'artiste dans ce monde qui, malheureusement, voilà, a plus d'ombre, en tout cas, que de lumière ?
Ça, c'est les autres qui peuvent me le dire, si je suis important ou pas. Je pense, en général, l'artiste a encore un rôle. Il doit se véhiculer avec son intégrité pour dire en réalité ce qui existe. C'est les autres qui peuvent le dire, je sais pas, j'ai l'impression que notre rôle est important, mais j'espère qu'on est important. J'espère que les arts sont plus importants que les choses politiques dans lesquelles on se fourvoie en permanence apparemment, qui est le haut lieu du mensonge. Peut-être que l'art pourrait permettre de ne pas être un menteur.
Et pour finir, vous qui êtes poète, avec quel mot rime résonance ?
Il y en a beaucoup. Clairvoyance.
Eh bien, merci Denis Péan d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous retrouve sur les réseaux sociaux et on vous écoute sur toutes les plateformes et en concert le 8 novembre au Grand Théâtre d'Angers.
Exactement.
Résonance, c'est pour vous et avec nous. De l'élégance, de l'émotion, des vibrations. On vous dit à bientôt.
Viens des syllabes, flamme des voyelles, pour des couronnements, des sacres de ficelles. Viens pour des salutations, des tourbillons d'atomes. Estropié, j'arrivais, fruit amer, messager d'une langue foudroyée. Témoin des navires échoués, je ne sais rien, je suis la rosée, le battement des rimes.
Radio G, 101.5 FM. Well, kindness isn't simply a